Salut à tous, bienvenue dans une émission spéciale Nipcast Family, une émission à trois voix aujourd'hui qui va nous amener sur les meilleures choses de 2016 dans trois domaines différents et puis nos espoirs pour 2017 également. C'est toujours intéressant dans la famille Nipcast de partager un petit peu les différents savoirs que l'on a. Et aujourd'hui, alors, on est trois, il y a eu quelques empêchements, on devait être six, bon voilà, les aléas font qu'on est trois, mais on a tellement de plaisir à le faire que c'est vraiment, on remplira le temps avec tout autant de bonheur. On commence par Fabrice qui est là, salut Fabrice.
Salut Ben, salut à tous, plaisir d'être de retour pour un épisode de Nipcast de clôture de 2016 et début 2017, super content d'être avec vous et hâte de faire cette émission.
Ouais, je t'ai vu dernièrement là dans la presse luxembourgeoise, ça parlait de crypto-monnaie, donc j'imagine que tu auras deux, trois choses à nous dire là-dessus, mais tu commences visiblement à te faire ton nid, enfin c'est pas un moment que tu bosses dessus, mais oui. Dans le domaine, donc je me réjouis d'entendre tout ça.
Oui, c'est vrai. Et que puis, bon, ouais. Vas-y, je te laisse continuer, je reprendrai après.
Non, vas-y, bon allez, je présente d'abord Régis qui est là avec nous aussi, Nipédu, salut Régis.
Salut Ben, salut Fabrice. Hey, j'y crois pas, je suis dans Niptech, c'est incroyable. Je toque ma vitre là pour y croire.
C'est beau.
Je suis super content d'être là, super content d'être avec vous ce soir.
Écoute, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait pas très souvent, mais qu'on a énormément de plaisir à faire, donc c'est vrai que c'est très très cool. Et puis, Nipédu qui, alors, déjà Nipédu, il y avait l'énergie, hein, si vous n'avez pas écouté, c'est vraiment l'émission. Si vous êtes un peu, vous avez besoin de bonne humeur, hop, Nipédu et c'est parti. Et non seulement ils étaient déjà au top, mais ils ont encore décidé depuis la rentrée passée de remettre une couche. Donc maintenant, c'est vraiment... Alors, du coup, c'est moins fréquent parce que c'est tellement que voilà, c'est un peu moins fréquent, mais ils sont encore passés au niveau supérieur. Enfin, tu nous expliqueras un petit peu tout ça aussi tout à l'heure. Hein.
Ça roule. Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Tu le présentes mieux que nous.
Bon, bah alors voilà, l'idée, hein, c'est qu'on se partage un petit peu de nos points de vue sur ce qui va se passer et tout ça. C'est vrai que, ben voilà, on a nos émissions, donc ceux qui nous suivent connaissent, mais c'est aussi intéressant de voir, quand on mélange tout ça, ce que ça donne. Pour toi, alors Fabrice, quand tu regardes dans le rétroviseur 2016, qu'est-ce que tu vois en grand, l'objet qui prend toute la place, c'est quoi?
Alors moi, clairement, c'était la blockchain, en fait, plus que les crypto-monnaies, plus la technologie sous-jacente. La blockchain. Alors ça doit faire, je sais pas si ça fait 3 ou 4 ans qu'on a commencé Nipcoin, qu'on avait un peu senti qu'il y avait quelque chose qui avait, il y avait du potentiel, il y avait des opportunités qui pouvaient naître au travers l'utilisation de ces technos-là. Pour moi, 2016, ça a été vraiment l'année où une prise de conscience un peu globale qu'il y a quelque chose à faire avec ces technologies. Et avec deux angles, en fait. Alors d'une part, pour les gros acteurs bien établis, les banques, les industries, etc., dire ah oui, bah jusqu'à maintenant en fait c'était un peu le blockchain égale evil, c'était un peu le diable qui faisait tout ce qui était anti-blanchiment, tout ce qui était fraude, c'était utilisé pour ça, et surtout personne n'y allait vraiment et c'était vu avec beaucoup de crainte. Et 2016, c'est l'année où tout le monde a regardé concrètement qu'est-ce qu'il était possible de faire avec cette techno, ou en tout cas quels étaient les risques de rien faire. Et en même temps, pour les créateurs de cette techno, ça a été un peu l'envers de la médaille, puisque sinon il fallait choisir un événement qui soit à la fois tech et lié alors au développement, mais en plus là c'est vraiment lié au développement, on va voir pourquoi. Hein. Sur 2016, c'est vraiment l'épisode The DAO. Donc pour un rappel, en deux secondes, The DAO, c'est quoi? C'était cette fameuse organisation autonome décentralisée dont la promesse était de dire investissez joyeusement en Ether sur une blockchain publique. On va utiliser vos investissements, vous pourrez voter pour des projets et puis créer une sorte d'un fonds d'investissement, mais plutôt à la mode d'investissement dans des startups dédiées à Ethereum. Et puis vous deviendrez riche puisque les startups, certaines vont décoller. Voilà. Tout ça étant développé sur base de smart contracts. Donc avec un bug qui n'était pas un bug de la smart contract, mais qui était plus une erreur de développement sur un des smart contracts, qui a fait que finalement une grosse partie de la monnaie a été siphonnée, a été subtilisée avec les fameux forks, avec tout ce qui... Alors, l'idée là, c'est pas de répéter tout ce que les gens intéressés connaissent déjà, et ceux qui connaissent pas du tout vont pas comprendre.
Donc avec c'est vite compliqué hein, quand tu connais pas
ce genre de choses. Mais en tout cas, moi ce que je remarque, c'est à la fois les gens qui étaient qui qui croyaient pas ou qui voulaient pas investir sur ces sujets-là l'ont fait massivement en 2016. Et ceux qui étaient certains que c'était un peu la, les gens un peu libertaires pour qui c'était la panacée et on pouvait tout faire dessus, sont vus un peu désillusionnés ou en tout cas ont vu que finalement c'était pas si simple. Et les pieds, on est retombé un peu sur terre. Ce qui était réellement possible, en tout cas sur les blockchains publics. Et cet épisode de DAO, pour moi, c'est alors que on peut aussi le voir comme un coup d'arrêt brutal au blockchain. Pour moi, c'est pour en tout cas les acteurs plus mainstream, c'est très salvateur parce que ça montre quelque chose de très concret. Et donc, ça permet aux acteurs mainstream de se dire oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement et comment on va régler tous ces problèmes-là qu'on anticipe sur. Sur les blockchains. Donc c'est l'acteur un peu majeur et de ce que j'ai vu en tout cas ça a freiné personne en termes d'utilisation.
Comme tu dis, c'est bien de voir où sont les limites et comment ben voilà, au moins une fois que tu les as atteintes après tu peux les dépasser le jour où tu sais comment faire, mais c'est juste. Ouais.
Et ça permet après d'aborder très concrètement, de poser des questions très concrètes. Là, j'ai publié il n'y a pas si longtemps que c'est un article sur un smart contract. Pourquoi un smart contract aujourd'hui n'est pas un contrat, ou en tout cas peut pas être complètement considéré comme un, comme étant un contrat, en tout cas en droit français, en droit de d'aspiration française. Et c'est notamment la lecture de l'épisode de DAO où il y a des choses très concrètes qui peuvent être mises en avant. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire sur des blockchains pas forcément publics d'ailleurs pour faire en sorte qu'on soit plus proche de quelque chose de, enfin, d'un vrai contrat, on va dire.
Ouais, mais c'est moi, c'est la fois où je suis content, effectivement. Hein. Donc, bon, pour ceux qui connaissent pas, comme tu dis, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est comme toujours, quand il y a une nouvelle technologie, à un moment, t'as une technologie qui est là simplement pour, ben voilà, c'est comme toute technologie, elle est plus ou moins neutre, et puis après, tout le monde vient mettre un petit peu ses rêves, ses espoirs, sa vision politique, etc. Et puis au final, maintenant, on revient à ce que c'était au début, c'est-à-dire une technologie qui, voilà, a des limites, doit s'intégrer dans la société, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la maturité, là, on a passé le cap de l'adolescence, douloureux, hein, douloureux l'adolescence toujours, mais néanmoins, ben voilà, un passage important et formateur. Je dis tout ça parce qu'on va quand même profiter de faire un petit saut avant d'essayer de regrouper tout ça côté vers toi, Régis. Je pense qu'effectivement, hein, tu es dans un milieu qui est très différent de ce milieu des crypto-monnaies. Alors toi, quand tu dois penser à 2016 et voir un élément marquant, qu'est-ce que c'est qui te vient à l'esprit ?
Moi, quand je pense à 2016, je vois le... alors, on n'est pas dans la tech, mais la tech, elle y a servi. En tout cas, c'est ces initiatives enseignantes, ces collectifs enseignants qui sont de plus en plus reconnus et pris en compte par l'institution jusqu'au plus haut niveau. Il y a eu plein de communautés enseignantes qui se sont mis à travailler ensemble. Évidemment, le numérique a permis de faire émerger ça, a permis de renforcer ça avec les réseaux sociaux, où il y a notamment sur Twitter, hein, pour pas le nommer, la communauté éducative très riche. Et donc, il y a ces collectifs enseignants et même ces initiatives d'enseignants individuels qui sont de plus en plus reconnus, mis en avant, avec une vraie volonté de diffusion par l'institution même. Essayer de voir parmi ces pratiques, les pratiques qui peuvent être essaimées à plus large échelle dans l'institution. Et vraiment, c'était une tendance lourde, j'ai l'impression, de plus en plus, et notamment ce qui m'a marqué, en tout cas en 2016. Il y a des chercheurs aussi qui se penchent là-dessus, il y a des formateurs, et on parle maintenant de... Alors, dans l'institution d'éducation nationale, en tout cas en France, on a ce qu'on appelle la formation continue et la formation initiale. La formation initiale, c'est qu'on rentre dans le métier d'enseignant, et la formation continue tout au long de la carrière. Et on parle maintenant de formation institutionnelle et de cursus informel, où tous ces profs se forment ensemble, formés par les pairs dans ces communautés numériques. Et là, ça dépasse les cadres géographiques et nationaux. Ça permet évidemment, hein, les réseaux sociaux de travailler avec des collègues du Canada, de l'autre bout du monde, en Asie, qu'ils soient francophones ou pas d'ailleurs. Et du coup, de voir plus large son parcours professionnel et de se former entre profs. Et ça a vraiment été une grosse tendance cette année. On espère que ça va continuer. Et donc à la fois le volet l'institution qui reconnaît ça, qui met même en avant, qui veut partager, diffuser jusqu'au niveau de la ministre, qui dit que on a besoin de l'innovation, hein, même si c'est un peu un mot qu'on n'aime pas trop parce que il est très connoté. Et du
coup, il est connoté comment ?
Il est connoté, il fait peur au plus grand nombre quand on présente quelqu'un comme un prof innovant. Il y a un côté qui peut être parfois suspect en disant c'est un prof peut-être qui veut se mettre en avant, ou alors c'est un prof qui utilise des technologies et que nous on pourra pas utiliser parce que c'est un geek. Il est connoté comme ça, et du coup l'idée c'est pas du tout ça. On sait que l'innovation elle se base toujours sur des pratiques, on parle d'innovation pédagogique, hein, sur des pratiques qui existent déjà,
Donc l'idée, c'est vraiment de dire que préfère peut-être le mot de défricheur. C'est, il y a la notion d'emmener les autres avec soi, on défriche pour que d'autres puissent venir. Et donc tous ces profs défricheurs, donc on va utiliser plutôt ce terme, et ces communautés enseignantes défricheuses se regroupent, font communauté, quoi. Et ça, ça commence à être vraiment reconnu et pris en compte par l'institution. Donc c'était vraiment la grande tendance de 2016, en tout cas. De notre point de vue, Nipédu, là, de tout ce qu'on a pu couvrir comme événement et avoir dans nos émissions. Donc, on n'est pas pile dans la tech, mais elle est là, en fait.
Ouais, ben, mais parce que vous êtes les vrais utilisateurs. Parce que c'est bien beau, mais la tech, elle peut pas juste, comme tu dis, hein, vivre dans ce milieu élitiste. Je pense que, on va pas faire de la politique à deux balles, mais on a bien vu que malgré tout, les hauts cris de la Silicon Valley et puis leur leçon de morale aux électeurs, ben voilà, il y a quand même une élection de Trump qui ne partage pas les valeurs, mais parce qu'ils sont, ils ont ce pas de distance qui s'est créé. Il faut des gens qui soient sur le terrain et puis qui l'utilisent de manière intelligente. Et je pense que ça, vous le faites super bien avec Nikedum. Mais c'est intéressant parce que depuis le début où vous êtes lancé, où fallait, je me souviens au début, c'est pas que tu devais pas le dire, mais enfin, il fallait quand même être très, très, très prudent, y aller. Et puis maintenant, bah, c'est reconnu. Donc, c'est pas que grâce à vous, hein.
Non, c'est clair.
Beaucoup, mais enfin, vous faites partie de la tendance. Ça, c'est cool.
Ouais, l'idée, c'est pas de dire que c'est nous, grâce à nous, hein, pas du tout. Mais nous, l'idée du PDU, c'est de donner la parole.
C'est innovant, ça.
Ouais, c'est ça, c'est de donner la parole à ces gens et au travers des émissions et des événements qu'on couvre, ouais.
Et finalement, le lien que je vois, même s'il est, il est plus conceptuel que tech, sur avec le sujet blockchain et crypto-monnaie, c'est aussi une forme de décentralisation et de d'îlot, en fait, d'autonomie sur ces sujets éducation qui se mettent en place au travers de ces communautés. Comme on parle de là, on parlait avant de monnaie décentralisée, là c'est une décentralisation des pratiques avec des îlots d'expérimentation qui vivent, qui font leur petite histoire, puis qui partagent et qui essaiment ou pas sur d'autres îlots. Et c'est un peu là, pour le coup, culturellement, c'est assez proche des autres tendances qu'on peut voir supportées aussi par la technologie, par exemple pour les monnaies, les blockchains, mais là c'est supporté différemment par la technologie, mais il y a une tendance un peu à une forme de décentralisation et d'autonomie plus forte par des groupes de personnes qui vont soit expérimenter, soit encore une fois mettre en place des pratiques un peu nouvelles.
Il y a une question quand même que je vais poser à l'enseignant. J'ai lu un bouquin, enfin j'ai lu, des fois on sait plus si on a lu, écouté, entendu parler, voilà. Mais c'était un de ces bouquins qui en gros avait la thèse qu'on est de plus en plus dans une société de distraction, que le coupable évidemment c'est le portable, pas la technologie en soi mais le portable, parce qu'il vibre, il clignote, donc il est constamment en train de faire appel un petit peu à notre instinct animal qui a peur, qui se méfie de ce qui fait du bruit, etc. Et que par conséquent, ça devient compliqué de continuer à avoir un lien avec le monde physique réel. Est-ce que toi, en tant qu'enseignant, tu confirmes que ça devient compliqué ou bien ça ne change pas tant que ça avec les années ?
Je vais prendre le contre-pied et dire que pour beaucoup de profs, ça a été le contraire. On est nombreux enseignants, là je mets vraiment la casquette d'enseignant, hein. On est nombreux enseignants à s'être juste connus sur les réseaux sociaux et ça finit quasiment toujours par des rencontres réelles à des événements autour de l'école, de l'éducation, du numérique, ou même plus personnellement. Donc, du coup, il y a un vrai lien qui s'est créé dans ces communautés de profs, bien au-delà du numérique. Il y en a de très nombreux qui se rencontrent, même d'ailleurs, on a eu la chance de rencontrer de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Donc, ce lien, il existe vraiment, il est vraiment, alors, j'ai même utilisé un gros charnel, enfin, il y a des vraies rencontres physiques qui se font parce que, pour faire un autre lien, quand tu parles de cette société de distraction et des écrans qui nous perdent un peu, en allant même plus loin, il y a eu ces fameuses craintes, on en parle encore parfois, de dire le numérique ou les écrans va finir par remplacer les enseignants. Ça nous fait sourire, nous les profs, parce qu'on sait que on défend les usages du numérique. Par contre, on sait qu'il y a toujours de la pédagogie derrière, c'est-à-dire qu'il y a des profs derrière pour proposer des situations engageantes pour les élèves, pour proposer des situations où ils vont apprendre quelque chose. Donc il y a toujours l'homme derrière, l'humain derrière, forcément. Donc,
Et tes élèves n'ont pas une capacité de concentration de poisson rouge un petit peu speed. Donc, ils arrivent encore à lire une phrase complète sans checker sur... C'est même pas Instagram maintenant, c'est quoi?
C'est Snapchat. Ouais. Bon, moi, tu sais, j'ai des CM2, donc ils ont une dizaine d'années. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui osent déjà se lancer sur ces réseaux, malgré tout l'apprentissage qu'on peut faire en classe. Et on crée des chartes avec eux du bon usage des réseaux sociaux. Nous, l'idée, en tout cas, si... De ce point de vue-là, c'est justement, alors il y a eu ces critiques aussi, hein, de dire, on va pas ramener des tablettes à l'école, ils ont déjà des tablettes à la maison, on va pas leur faire utiliser les réseaux sociaux en classe, ils l'utilisent déjà trop à la maison. Le but de l'école, de toute façon, c'est dans les programmes, ces usages numériques, c'est de leur montrer qu'on peut en faire bon usage, que c'est pas juste pour faire du LOL et du PTDR et poster son petit déjeuner. Donc il y a des usages pédagogiques. Et d'ailleurs, j'ai lu aussi là ou entendu ou des chercheurs de nouveau qui disent que on n'a jamais eu plus besoin que maintenant, notamment de l'orthographe par exemple, parce que ben ils écrivent plus que jamais, nos élèves, nos enfants, par les réseaux sociaux, par les chats sur leurs jeux vidéo. Alors parfois c'est une catastrophe évidemment, mais d'où l'intérêt de l'usage d'apprendre à utiliser ces réseaux sociaux. Et derrière ça, j'utilise un réseau social, qu'est-ce que j'y fais? J'y écris, donc faut que je sache bien écrire parce que ça engage ma personne, ça engage mon identité numérique. Donc nous on leur apprend tout ça. La question de la concentration et de la dispersion mentale des élèves. Alors peut-être que c'est une autre émergence, tu vois, que j'avais mis en numéro 2, c'est le côté neurosciences. Neurosciences éducatives qui vient de plus en plus et qui est travaillé avec les élèves pour justement les positionner, leur faire prendre conscience de leur attention, de leur niveau d'attention, de leur niveau de concentration, notamment avec les usages de ces fameux écrans. Donc leur faire mettre un pas de côté. Alors je parle pas de neuroéducation, il y a un débat là, c'est vraiment les neurosciences appliquées à l'éducation, les neurosciences éducatives. Donc on leur fait faire aussi ce pas de côté, de réfléchir à tout ça, comment fonctionne leur cerveau et pourquoi il est important parfois, notamment par exemple, de déconnecter.
Et il y a une question dans la galaxie Nipcast, il y a Nipmedit, c'est Nipmedit. Est-ce que, or j'entends, je lis que la méditation à l'école, c'est aussi des tendances et c'est aussi prendre le contre-pied de la distraction permanente par les réseaux. Est-ce que c'est des choses qui se font concrètement dans ton entourage, Régis, ou pas du tout? Vous en discutez pas du tout? C'est pas le sujet, ou c'est des sujets bien concrets?
Alors carrément, hein, j'ai envie de dire, tu tapes dans le mille. On en a parlé plusieurs fois dans IPEDU. Moi, je pratique avec ma classe, et là encore, c'est une tendance qui a changé depuis quelques années. Je me rappelle quand je m'y intéressais, il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 4-5 ans. Il y avait un regard très critique, même institutionnel. Fallait pas trop parler de méditation avec les élèves. Maintenant, on en parle plus clairement. Il y a beaucoup de profs qui la pratiquent vraiment, pour de vrai. Donc, moi, je peux dire que clairement, je le fais avec mes élèves. Alors, on n'a pas le temps tous les jours. Typiquement, j'essaie de le faire 2 fois par semaine avec eux. Et ça fait partie, notamment, des préconisations pour bien apprivoiser son cerveau, hein, de savoir tout relâcher, de méditer, d'apprendre aussi ces techniques-là. Donc oui, c'est pratiqué dans les écoles.
En gros, si je comprends bien le fonctionnement de l'école, alors si on résume, c'est qu'au début, beaucoup de résistance, mais qu'au final, si ça fait du sens, c'est assez ouvert. Avec le temps, l'institution, comme tu l'appelles, elle fait son bonhomme de chemin et ça se passe. Ou bien c'est plus compliqué que ça?
Il y a de ça. Il y a, disons que pour ceux qui ont envie que ça change jamais assez vite. Et puis, il y a pour qui ça va trop vite. Donc il y a un équilibre. On sait bien que le temps de l'institution n'est pas le temps de l'innovation. Donc ça prend du temps, mais il y a toujours ces enseignants défricheurs qui sont les premiers à pratiquer des choses. Et comme tu le dis très justement, hein, l'idée c'est pas que ça fasse florès. L'idée c'est qu'il faut que ce soit bénéfique aux apprentissages des élèves. Donc s'il y a ça, s'il y a la pédagogie derrière, si ça respecte les programmes, il y a aucune raison et l'institution, les résistances, elles tombent petit à petit.
Mais c'est intéressant, écoute, parce que je vais peut-être faire le lien avec mon année, ce que j'ai vécu. Vous le savez si vous suivez un petit peu, alors Niptech, pour le coup, cette année pour moi, c'est les drones commerciaux, qui c'est aussi maintenant que c'est en train de se passer. Mais il faut voir que les drones, ils sont pas nés dans le vide comme ça un jour. Donc ils ont toute une histoire liée à la robotique, mais aussi liée à l'aviation. Et l'aviation, c'est un milieu qui a toujours été récompensé pour la sécurité et jamais pour la rapidité. Et par conséquent, tout à coup, on amène un nouvel outil qui est cet engin qu'on ne sait pas trop comment il fonctionne, qui l'occupe et tout ça. Il n'y a pas un pilote qui a fait des nombreuses années d'études, qui a été validé, etc. Donc, c'est un peu inquiétant. Et puis, on dit maintenant, il va falloir aller très vite. Donc, ces personnes qu'on a récompensées pour leur prudence, du jour au lendemain, on leur dit maintenant, on va vous récompenser pour votre capacité d'innovation. Évidemment, on le met dans une situation d'échec programmé parce que c'est juste, y a une dissonance cognitive de qui ils sont, de pourquoi ils font les choses, etc. Et cette année, on commence à voir un petit peu, et c'est le travail que je fais aussi dans l'association qu'on a créée qui s'appelle Global UTM. Le but, c'est de mettre un petit peu ça, tout le monde ensemble, et puis de permettre à ce que les opérations se passent bien. Parce que, comme tu disais, comme pour l'enseignement, tu peux pas, nous, on a envie que ça aille plus vite, mais ça sert à rien de le faire dans ton coin en disant, les autres, ils n'ont qu'à suivre. Il faut aller, pas au rythme du plus lent parce que tu n'avances jamais, mais au rythme, disons, de la moyenne qui te permet de pousser et d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un apprentissage pour moi aussi par rapport au monde de l'informatique comme Fabrice où bah, tu mets en production, tu fais de DAO, ça plante, les gens perdent de l'argent, tu t'en fiches, tu repars. Ça, c'est des milieux rares. La plupart des milieux, même si on pense au pharma, même si on pense à il y a plein de milieux où tu dois avoir un autre rythme. Et je trouve que la place de l'innovation là-dedans, elle est vraiment intéressante. C'est vrai que ça, j'ai plaisir à le faire cette année. Et puis l'autre truc dont on parle, et c'est un petit peu des sujets qui touchent à tous les domaines, c'est l'autonomie. Tu disais remplacer le prof. Ben là, c'est la même question. C'est est-ce qu'on va remplacer les pilotes ? Typiquement, le pilote d'avion, ben lui, maintenant, ce qu'il fait, alors c'est très réducteur, hein, mais à l'époque, il faisait tout. Maintenant, il a beaucoup d'autopilotes, il a des auto-landings, il a de la réalité virtuelle qui lui permet de voir la piste d'atterrissage. À la longue, les gens veulent le remplacer par un drone complètement. Voilà. Donc, ce monde de la robotique et des drones arrive aussi et puis menace un petit peu les jobs existants. On crée des nouveaux. Mais ça demande aussi de se repositionner. Et je pense que l'autonomie, enfin, vous savez, hein, j'ai lancé la réflexion là-dessus, mais c'est vraiment pour moi quelque chose que j'ai vu pointer ou auquel je me suis intéressé en 2016, que je trouve intéressant et qui touche un petit peu à tous les sujets. Parce qu'on dit décentralisé, autonome, je pense qu'on voit clairement...
Mais dans DAO, il y a les deux mots. Dans DAO, il y a les deux mots. Il y a décentralisé. C'est organisation autonome décentralisée. Donc on est en plein dedans, et c'est vrai que c'est, tout à l'heure je parlais de mouvement un peu de fond au niveau culturel presque, ou sociologique, je sais pas, c'est aller vers de l'autonomie sans sacrifier, c'est un peu ça l'enjeu, c'est ce que tu dis, c'est aller vers de l'autonomie sans sacrifier à la sécurité. Et donc les bitcoins c'était sans sacrifier à la sécurité, se passer de la banque en étant certain que quand j'envoie des bitcoins à quelqu'un, il les reçoit réellement, sans forcément que je lui fasse confiance ou que je sois obligé de faire confiance à un tiers de confiance centralisé. Et c'est vrai qu'il y a finalement sur l'autonomie des véhicules, sur tout un tas de sujets, on est un peu là, c'est comment faire en sorte d'être plus autonome en restant sécurisé. Alors la sécurité se décline pas de la même façon dans le secteur financier, dans le secteur informatique, ou dans le secteur de l'aviation, parce qu'on est parfois sur la sécurité physique et où des vies sont en jeu, d'autres fois sur la sécurité des systèmes où on perd des données, où on perd un peu d'argent, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes enjeux. Mais les sujets de fond sont les mêmes.
Tu dis aussi, parce que la vie privée, hein, je pense pour les élèves, c'est quelque chose d'important à apprendre à gérer, sur qu'est-ce que ça veut dire la vie privée, où c'est, on a beaucoup de débats en Suisse, hein, parce qu'on a aussi une culture, je pense qu'en France c'est la même chose, mais une culture germanique assez forte, où la vie privée, par exemple les Google Cars, celles qui prennent les photos pour les rues, là ça, c'est plus possible en Allemagne, ils les ont plus mises à jour, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent que c'est une atteinte à leur vie privée. Donc, alors à tort ou à raison, mais toujours est-il que cette question-là, elle est dans tous nos domaines aussi. Les drones, je pense que, évidemment, c'est la première chose qu'on dit, ça va m'espionner. Les transactions bancaires et tout ça, on se demande, mais attends, qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui voit ? Où ça se passe ? Ça, c'est peut-être le thème qu'on aura en commun pour 2017. Je pense que cyber security, ça va être assez chaud.
Mais dans les sujets, d'ailleurs, qui vont être traités par tout le monde en 2017 en Europe, parce que les choses entrent en vigueur le 1er janvier 2018, c'est tout ce qui est une directive européenne, la Global Data Protection Regulation, qui renforce les obligations, très fortement les obligations des entreprises et des organisations en termes de protection des données personnelles, avec des amendes potentielles qui sont beaucoup plus que les quelques centaines de milliers d'euros infligés à Google, par exemple, infligés à Google. L'enjeu, c'est, et là, on est sur vraiment presque un enjeu de comment faire en sorte d'éviter que ces géants du web qui sont tous plutôt américains, par la protection des données privées, en fait, qui eux ont pas du tout intérêt à les protéger, ces données privées, à redonner encore une fois de l'autonomie aux individus, à faire en sorte que la valeur qu'ils créent finalement, ils puissent en récupérer une partie. Et ça, quand on est dans des groupes de travail blockchain, très souvent on arrive sur ces sujets-là. Nous, en ce moment, on travaille avec Joseph Lubin qui est des fondateurs d'Ethereum, je crois d'ailleurs, là-dessus, où l'enjeu, quand on dit quand on a un service gratuit, vous êtes le produit. En réalité, c'est pas nous qui sommes le produit, mais ce sont nos données personnelles. Et comment faire en sorte que quand je donne des données personnelles, je sois rémunéré pour ça. Aujourd'hui, on est très loin. Et ça va être un des sujets, probablement, comme tu le dis, Ben, de 2017, sur protection des données personnelles et aussi monétisation de la valeur. Comment, en fait, on rééquilibre la valeur qui est attribuée à ces données personnelles, qui aujourd'hui, cette valeur-là, elle est captée complètement par les géants, Uber, Google, etc. Puis, il y a certains Européens aussi, mais peu. Comment faire en sorte de la redistribuer de façon plus équitable aux propriétaires réels.
Je pense que un point pour moi qui a été une sorte de révélation aussi cette année et qui nous touche de nouveau les trois, c'est le rapport aux politiques. Alors, je pense que dans les bitcoins, on sait que c'est une vraie question. Tu as l'air d'être un habitué, Régis, parce que tu as le rapport au ministère. Et puis, c'est un monde qui est influencé par la politique. Mais moi, c'est que j'ai travaillé cette année avec beaucoup de gens, particulièrement en Suisse, qui sont on les appelle ici les offices fédéraux, l'office fédéral de l'aviation civile dans mon cas, et ils sont excellents. Et je dois dire que c'est pas que j'avais une très mauvaise image de l'administration, mais je m'attendais pas à grand chose en fait. Je me disais au mieux c'est pas trop un poids, voilà, je me disais ça, c'est et puis en fait non, j'ai découvert des personnes qui sont vraiment des moteurs, pas tous, mais quand même, qui ont vraiment une vision, qui sont des moteurs, et ça m'a vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait avoir des alliés dans l'administration qui pouvaient nous aider. Alors je sais pas, est-ce que vous aussi c'est votre cas, ou c'est j'enfonce une porte ouverte, c'était évident pour vous dès le début, ou Régis, toi je pense que c'est quelque chose que tu vis de manière naturelle.
Il y a les deux cas, j'ai envie de dire. Tout à l'heure tu disais si tout était aussi rose que je le présentais, dans le sens où si l'innovation fonctionne, elle est diffusée. Il y a un certain nombre de collègues qui vivent une dichotomie entre, on va dire au plus haut niveau, ou jusqu'à la ministre, on dit il faut innover, nous soutenons les enseignants innovants, et on rencontre régulièrement des enseignants qui, sur le terrain, localement, par leur hiérarchie, c'est plus compliqué. Et ça existe pas mal, et on a, c'est pas une porte ouverte, c'est aussi localement où les choses peuvent se développer. Si la hiérarchie suit et que le projet est diffusé, qu'il y a une bonne entente et que le groupe d'enseignants est mis en avant et son travail, et là, oui, c'est facilitant et ça diffuse les choses toujours dans l'intérêt des élèves. Donc, on va dire que dans l'éducation nationale, il y a des deux. Donc, mais il y a cette vraie dichotomie. Alors, je sais pas si ça existe aussi chez vous, c'est peut-être beaucoup plus, descendant ou pas. Chez nous, c'est souvent très descendant.
T'as raison. Je pense que tu pointes exactement la bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a les trois niveaux. T'as le niveau politique pur, où là, les gens, faut avouer, ils s'en fichent un peu du moment que ça sonne bien. Dans les drones, j'ai pas d'indication nationale où ils sont tous très bien, mais dans les drones. et là, c'est la mode, donc ils sont tous chauds, ils sont partants. Après, t'as l'administration, les hauts niveaux de l'administration, qui eux sont vraiment, ils maîtrisent les sujets, ils sont bons, ils sont énergiques, ils ont les réseaux internationaux, et ça se passe bien. Puis après, t'as les gens qui doivent appliquer, et souvent, c'est plus compliqué, parce que pour eux, ils n'ont pas de récompense. Soit typiquement, c'est bien beau de jeter des... Alors, j'ai rencontré beaucoup de policiers super motivés, mais il y a aussi beaucoup qui sont, c'est pas leur boulot. Donc, toi, il y a des cantons comme à Genève où ils sont à la pointe parce qu'ils ont décidé que ça serait chez nous, chez eux, une priorité. Mais il y a d'autres endroits où on leur demande 50 000 trucs, et c'est un parmi ces 50 000. Donc, évidemment, ils sont pas la même amitié, le même amour pour certains thèmes. Donc, tu as raison. Puis là, ça coince parce qu'au bout d'un moment, ils disent « Écoute, moi, j'ai 40 heures dans la semaine ou 35 selon où on est. »
Ouais. C'est ces niveaux intermédiaires qui peuvent vraiment bloquer les choses. Je vois que c'est partout pareil, donc forcément. Ouais,
c'est effectivement... tu as raison. Je pense que tu pointes vraiment le doigt là-dessus. Toi, ton expérience avec l'administration et la politique en 2016, Fabrice, plus, de tous les pouces en haut ou quelques pouces moyens en haut?
Mais en fait, c'est vrai que les contacts que j'ai eus, encore une fois, avec les politiques et les régulateurs, c'était encore autour des crypto-monnaies. Et j'ai trouvé, en tout cas en France, alors que souvent on dit la France a tendance à surréguler, à réguler trop tôt, à brider un peu l'innovation au travers de la régulation. Moi, j'étais à plusieurs colloques, notamment un avec Axel Lemaire, où Axel Lemaire disait « Ah bah oui, surtout ne régulons pas, on est tous d'accord, les députés, pour ne pas réguler, pour en faire le moins possible. » En disant avec beaucoup d'humilité, la première raison, c'est parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. C'est tellement nouveau et tellement en rupture par rapport au système habituel que, à part faire beaucoup de maladresse et donc effectivement brider l'innovation, on va pas faire. Et c'était là pour le coup, et j'ai vu clairement les start-up et les investisseurs qui disaient « Si, s'il vous plaît, mettez un minimum de régulation, parce que sinon c'est trop le Far West ».
Mais toi, c'est le côté jamais content. Ils mettent des régulations, on les déteste, c'est scandaleux. Puis quand ils mettent pas, c'est non, mais les gars, là, c'est quoi ce délire?
Et clairement, mettez-en, parce que les gens qui créent leur start-up, les clients vont avoir, autour des blockchains notamment, les gens vont avoir peur de l'utiliser, notamment à cause de l'épisode The DAO. Comment je récupère mon argent? Comment je me retourne? Qui est responsable de quoi sur ces technologies-là? C'est pas évident. Et puis les investisseurs qui mettent de l'argent concrètement, s'il n'y a pas de régulation du tout, et que tout d'un coup une régulation arrive qui fait que que le service tel qu'il était offert ne peut plus opérer à cause de la régulation, ben, l'argent peut être complètement perdu. Donc finalement, le fait de ne pas l'avoir du tout, bon, c'est l'objet de la régulation, c'est de mettre de la sécurité, ça désécurise, alors pas techniquement, mais d'un point de vue financier, cette fois, ce qui se passe autour des blockchains.
Ouais, alors ça c'est intéressant parce que je pense que c'est là où il y a aussi un petit peu des philosophies différentes, c'est que si tu regardes les lois qu'on a tous dans les pays occidentaux, on a des lois pour tout. Je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas assez de lois, on a vraiment des lois pour tout. Ça inclut, alors la philosophie helvétique dans ce cadre-là, c'est de dire on va utiliser l'existant. Donc voilà, vous savez, vous n'avez pas le droit de blanchir de l'argent, vous n'avez pas droit de distribuer la vie privée, tout ça. Ça a changé récemment chez nous. C'est tout nouveau, ça a changé. Mais en échange, c'est vrai que ce que demandent les entreprises, ce n'est pas tellement plus de cadre, mais c'est une sorte de promesse, de gentleman's agreement, qu'il n'y aura pas de changement radical sans de temps de se préparer. Parce que c'est bien beau de dire, vous pouvez utiliser le cadre existant, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui vient avec une idée géniale en disant, en fait, on interdit tout, ou bien en fait, on fait tout différemment. Ben là, effectivement, ça peut être des mois ou des années de travail anéantis sur des décisions. Et puis, la sécurité, c'est le pire. Donc, je suis d'accord avec toi, Fabrice, je vois un peu de ça, mais de manière peut-être, avec moins une demande de régulation qu'une demande d'information.
De stabilité de ce côté-là, c'est vrai. En tout cas, c'est-à-dire, si vous dites que vous ne régulez pas, ben, ne régulez jamais et ne commencez pas à réguler, à casser tout ce qui a été fait avant. Non, jusqu'où il est possible de jamais réguler, ça, c'est pas évident non plus. Ou de tout laisser s'autoréguler, c'est pas évident non plus. Mais il y a une vraie réflexion autour de quel peut être un niveau juste, en fait. Et aussi, même, c'est vrai qu'on dit souvent, en théorie, il y aurait besoin de peu réguler, parce qu'il y a beaucoup déjà de lois qui font, bah oui, on peut pas blanchir, on peut pas, il faut connaître l'identité, bah, il y a tout un tas de lois, notamment le secteur financier, le KYC, il faut connaître l'identité des clients, le bénéficiaire ultime, économique ultime, etc., etc. Oui, il faut, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible de l'obliger sur des systèmes complètement décentralisés. Et aujourd'hui, et là, on parle d'autonomie, de décentralisation depuis le début du podcast, et aujourd'hui, beaucoup de nos systèmes, qu'ils soient législatifs ou financiers, sont faits pour des environnements très centralisés. En fait, on va contrôler au travers de la centralisation. On va gérer le risque au travers de la centralisation. Or là, si on commence à dire, oui, mais on va finalement, la société, ou en tout cas une partie, va dans un besoin d'autonomie, de décentralisation, on s'aperçoit que là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à revoir des points de vue des mêmes politiques, cette fois, et sociologiques, parce qu'on est dans un monde qui reste centralisé. Plus c'est centralisé, mieux ça fonctionne aujourd'hui.
Moi qui suis pas du tout dans ce monde et qui maîtrise pas ces choses-là, mais est-ce que il peut pas y avoir un retournement où ces technologies elles sont utilisées, in fine, vont être utilisées par les banques? Et est-ce que finalement, ben, ces gros groupes bancaires vont pas recentraliser les choses à leur sauce? C'est où je dis une grosse bêtise là?
Non, mais c'est clairement les banques pourraient recentraliser une partie, en tout cas, enfin, ce qu'elles veulent, elles veulent pas centraliser, elles veulent capter les profits. Donc en fait après, bon, la technologie permet d'avoir beaucoup plus d'interactions fluides, on va dire, entre les acteurs et d'optimiser pas mal de processus financiers. Et donc ça, c'est de l'optimisation, mais en fait il n'y aura même pas besoin de blockchain pour faire ça en réalité, parce qu'il suffirait de faire un système auquel beaucoup d'acteurs sont connectés et partagent les mêmes données et pas retransforment systématiquement les mêmes données à leur sauce, hein, pour que tout ça fonctionne. La blockchain, c'est plus un prétexte assez naturel, et puis on utilise cette structure-là qui apparaît sur le blockchain public pour forcer le système classique à être un peu plus optimal. Mais oui, les banques effectivement vont essayer de recentraliser. Après, le vrai risque pour ces acteurs classiques, c'est qu'on ait des vrais systèmes complètement parallèles qui commencent à fonctionner réellement. Si le DAO avait été une vraie, parce qu'au départ il y a quand même beaucoup d'investissements, si en termes de capital risque sur l'entreprise ça avait été une réussite et que tout ça avait continué, avait bien fonctionné, ben, en fait ça, on avait quand même un système où des gens investissaient de l'argent, enfin réel, en tout cas de l'éther avec une vraie contre-valeur réelle, pour faire des vraies activités avec des vrais services qui étaient beaucoup numérique, sans du tout être fiscalisé, sans du tout être passé par des frais bancaires, par des choses comme ça. Donc, pour moi, le risque, même s'il est faible, parce qu'il y a beaucoup, la technologie est peut-être pas assez mature, ni des usages, c'est de commencer à avoir des vrais systèmes autonomes parallèles qui se montent pour faire des échanges réels, sans passer par... parce que c'est pas que c'est hors la loi, c'est illégal, c'est allégal. C'est-à-dire que on peut pas appliquer...
La loi,
ouais. Voilà, c'est en dehors. C'est pas hors, c'est en dehors de la loi, mais c'est pas contraire à la loi, c'est en dehors. Et c'est c'était un peu la promesse des inventeurs de ces d'Ethereum, de ces plateformes-là, de dire on va avoir un monde où finalement on n'aura plus besoin de rien centraliser, ni de loi, on n'aura plus besoin de loi, parce que tout va se faire directement. On n'y est pas, mais est-ce qu'on pourra l'avoir, je ne sais pas. Ouais.
Là, je pense qu'on a bien vu hein, les mots d'autonomie, de décentralisation, qui nous ont marqués. J'étais quand même curieux de voir s'il y avait des choses ou des événements que vous attendez en 2017, que vous espérez voir ou que vous savez venir. Régis, toi, est-ce que c'est continuité ou il y aura de la rupture en 2017 dans tes attentes?
Ah, tu connais l'éducation nationale, c'est continuité. Non, dans le sillage de ce que j'ai dit avec cette mise en avant, cette reconnaissance des collectifs enseignants, la tendance qui se dessine en tout cas, c'est que ces collectifs, ils se renforcent, ils se structurent en... Il y en a déjà quelques-unes, hein, je pense à Inversion de la classe, par exemple, qui se structurent en association, par exemple, voilà un exemple de modèle. Là où c'était des choses très informelles, juste des regroupements par affinité, et puis autour de projets pédagogiques, et puis autour de partage de valeurs. Ça se structure de plus en plus, là, et du coup, ça va prendre plus de poids, plus d'implication, et c'est cette tendance-là qui se dessine, en tout cas, que nous, dans IPDU, on voit se dessiner, et à laquelle on a envie de participer aussi, hein, pour le coup, de se renforcer en s'entraidant, parce que ces communautés, elles sont très poreuses. On retrouve un certain nombre d'enseignants dans plusieurs de ces communautés, mais pas forcément que les mêmes. Donc du coup, se renforcer, chaque communauté se renforce avec ses valeurs, avec les idées qu'elle a envie de défendre, et peut-être se regrouper entre elles pour être encore plus forte. Donc c'est, en tout cas, c'est la tendance qui se dessine.
Donc il y a une idée de stabilisation et de trouver des solutions pour maintenant faire que l'acquis ait des bases solides et tienne pas juste sur le travail qu'ont fait ces dernières années, quelques personnes qui ont porté le bateau.
C'est ça. Tout ça, cette structure se renforce intercommunautairement, pour utiliser un drôle de mot, je ne sais pas s'il existe, mais c'est l'idée.
Eh ben maintenant, elle existe, ouais. C'est ça. Dorénavant. Pour toi, Fabrice, également continuité ou
Alors moi, ce que j'attendrais vraiment en 2017, c'est tout ce qui est AI, donc intelligence artificielle, parce que on voit que maintenant, là pour le coup, la technologie et les algorithmes commencent à être vraiment au point. Et en fait, tout ce qui est autonome, d'ailleurs, utilise très fortement l'AI pour assurer l'autonomie, que ce soit les voitures autonomes, etc. Les drones, peut-être un peu moins, mais encore, si on veut, à mon avis, au moins autant que les voitures, très rapidement. J'utilise depuis quelques temps un système basé sur l'intelligence artificielle pour la prise de rendez-vous, une assistante virtuelle qui prend des rendez-vous, et je suis un peu bluffé, ça marche vraiment bien.
C'est Julie Desk.
Oui, c'est ça, ouais, Julie Desk,
ouais. Ouais, j'ai vu parce que j'avais critiqué dans le dernier NipTech X.AI, qui est une sorte de concurrent, justement, intelligence artificielle prise de rendez-vous, qui est assez nul, parce que tu es dans la fameuse vallée de l'étrange, hein, où tu sens que c'est pas humain, puis en même temps, tu sens que c'est un petit peu à côté, puis c'est faussement sympa, etc. Par contre, je crois que Julie Desk a beaucoup d'humains encore derrière qui contrôlent.
Ouais. Donc, c'est possible, c'est ça, je sais pas dire jusqu'où c'est assisté, où s'arrête l'intelligence artificielle et où commence l'humain.
Ouais, il y a un choix de taux que Jean-Philippe Ancos m'a envoyé sur The Family, vous mettez Julie Desk, The Family, vous trouvez sur
regarderai.
YouTube.
Ouais.
Très sympa.
Ouais. Parce que c'est vraiment bien, et les personnes avec qui je prends les rendez-vous grâce à Julie Desk ne voient pas, en fait, que c'est, à part dans la signature, il y a écrit Powered by AI. Sinon, ils ne le voient pas. Et même certains remercient Julie pour sa perspicacité, sa ténacité. J'en ai eu deux qui ont fait ça. Donc, c'est cette partie intelligence artificielle. Après, il y a aussi la partie réalité virtuelle, réalité augmentée. Peut-être ça viendra un peu plus tard. Ça viendra dans des applications autres que le gaming un peu plus tard. Avec une réflexion que je me faisais, notamment en écoutant le dernier NipTech, où vous parliez avec Mike d'intelligence artificielle, de dire finalement est-ce que dans l'intelligence artificielle c'est pas quelque part un oxymore où à chaque fois que les machines prennent en charge de façon autonome des tâches qui étaient avant dévolues uniquement à l'humain et à l'intelligence humaine, eh bien en fait c'est plus vécu comme de l'intelligence réellement par l'humain. Et en fait, quand c'était Mike qui disait, tiens, on a commencé les calculateurs, ça a automatisé les calculs. Les premières choses, c'était du calcul. Avant qu'une machine puisse faire un calcul tout seul, eh bien, pour nous, c'était de l'intelligence. D'arriver à calculer, il fallait être intelligent pour commencer à faire des additions, des multiplications. Et puis après, aujourd'hui, on mettrait plus forcément ça sur l'intelligence. Et finalement, au fur et à mesure que les machines arrivent à prendre en charge de façon complète, autonome, ces tâches-là, eh bien, en fait, ça nous re-questionne, nous, sur qu'est-ce que l'intelligence et qu'est-ce que notre intelligence qui n'est pas celle des machines. C'est intéressant. Mais après, là aussi, ouais. Il y a tout un tas de...
C'est une excellente remarque.
C'est vrai, ouais, carrément.
Et c'est marrant, tu parlais, toi, de l'intelligence artificielle. Alors, typiquement, dans les drones, et c'est là où on voit que c'est des mondes différents, puis le milieu vraiment physique dans lequel tu vis fait que c'est différent. Il y a moins besoin d'intelligence artificielle qu'en voiture, parce que tu es dans un milieu qui est beaucoup moins compliqué. Une fois que tu es dans l'air, bon, alors, tu as des oiseaux, tu as du vent, il faut gérer un peu le milieu, mais tu n'as pas grand monde. C'est pas un milieu qui est très occupé. Il est hostile, parce que, voilà, par nature, on descend, donc il ne faut pas redescendre. Mais sinon, ça va. Tandis qu'en voiture, c'est très imprévisible. Tu as des piétons, tu as d'autres voitures, tu as des trucs qui peuvent tomber beaucoup plus facilement, etc. Donc, tu es dans un monde où, finalement, l'éveil de ton système doit être beaucoup plus grand. Alors, pour moi, ce que j'attends, c'est vrai, de l'année prochaine, c'est plutôt au niveau des logiciels et du hardware même. On a des toutes sortes de radars qu'on doit développer quand même hein, pour savoir où on est. Alors, un terme intéressant qui va venir assez fort l'année prochaine, c'est LIDAR. Hein. Maintenant, on commence à en entendre parler assez régulièrement. Donc, c'est des radars laser, en gros, qui permettent de voir son environnement de manière assez grossière. Il y a aussi tout le partage des données entre des véhicules autonomes. Et ça, je trouve que c'est intéressant de nouveau parce qu'on parlait d'autonomie. Mais au final, dans autonomie, et c'est là où ça devient quasiment philosophique, mais il y a la notion d'intelligence collective. C'est-à-dire une voiture qui apprend qu'il ne faut pas rouler dans un trou parce qu'elle est restée coincée. Bon, bah, il faut qu'elle puisse partager cette expérience pour que la prochaine voiture, elle ne va pas dans le trou. Alors, on peut le faire à la main, à la Tesla, puis on garde les données, et puis voilà. Ou alors, on partage vraiment avec tout le monde. Et toute la société en bénéficie. Donc ça, c'est nouveau des questions politiques. Est-ce qu'il faut forcer les sociétés à collaborer pour le bien commun ou est-ce que c'est une question purement de marché? Puis on dit, ben non, t'as qu'à apprendre, t'as qu'à tomber dans le trou toi-même et puis t'apprendras comme un grand, quoi. Ça, c'est une des questions qu'à mon avis, on va devoir régler en 2017.
En tout cas, ça ira beaucoup plus vite si c'est partagé. Enfin, on est toujours autonome. Tu dis que c'est philosophique, c'est l'idée qu'on est autonome par rapport à quelque chose. Et c'est vrai que s'ils partageaient leurs données, ça irait beaucoup plus vite.
C'est ça. Donc, Apple proposait typiquement de partager les données sur les accidents, ce qui semble effectivement, si tu devais en choisir qu'un type de données, ça me semble le bon. Mais après, pourquoi pas aller plus loin? Alors après, il y a la question d'investissement, etc. C'est là où... est-ce que c'est un devoir même public? Et puis, qui investit, toi, si tu mets de l'infrastructure pour dire, par exemple, aux voitures, attends, là, c'est pas une route, là, tu dois pas aller, ou là, attention, il y a des fois des choses spéciales qui se passent, soit qui paye? Et tout ça, on est aussi dans un moment où il va falloir commencer à rembourser des dettes. Si on veut, hein, ou sinon la génération prochaine sera sûrement beaucoup plus intelligente que nous et arrivera très bien à rembourser tout ça toute seule. Mais bon, il n'y a pas les budgets infinis. Il nous reste un petit peu de temps, mais on a quand même envie de finir. En tout cas, j'ai envie de finir cette émission avec vous par savoir ce qui vous motive de manière plus large. Hein. Là, on parlait pas mal de tech et de nos domaines respectifs, mais est-ce que vous avez des... j'aime pas forcément le mot résolution, vous savez, des fois on utilise le mot ou quelque chose comme ça dans le coin de la tête au niveau personnel pour 2017. Ça peut être même des lectures ou des choses comme ça que vous avez envie de faire. Fabrice, toi, je sais que tu n'es jamais à court d'idées comme ça. Est-ce que tu as des projets pour 2017?
Alors oui, j'ai des projets. Alors au niveau, avec des angles très différents au niveau personnel et professionnel. Au niveau professionnel, il y a un projet assez important. On a mis en place un chantier assez important de définition d'une itération nouvelle avec des changements potentiellement assez importants. Donc ça, c'est un projet qui est hyper motivant avec beaucoup de changements. Et au niveau personnel, là, je serai plus justement dans la partie sérénité que j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps, ça fait un an et demi, on est super bien là où on est. Et là, plutôt sur une partie, on n'a pas vraiment besoin de... Enfin, en tout cas, moi, je ressens pas de besoin de projet au niveau personnel, parce que Encore une fois, c'est assez calme, mais c'est plutôt j'ai recherché la sérénité là, et ce qu'on être bien comme ça, ce qui est le cas aujourd'hui, continuer comme ça. Alors après, oui, il y a toujours ces, j'ai toujours un objectif de perdre du poids, donc là, j'ai des lectures, etc., de faire plus de sport. C'est bonne résolution, il y a toujours un peu de ça. Et je me dis, ah, cette fois, je vais réussir à me tenir à telle et telle règle plus stricte pour faire attention. Voilà. Et après, bon, oui, dans les lectures, il y a, maintenant, je tourne un peu toujours autour des sujets, des mêmes sujets. Ce sont souvent d'ailleurs des lectures que vous évoquez dans Niptech. Et là, bah là, suite, d'ailleurs, j'ai téléchargé tout à l'heure, suite à l'écoute du dernier Niptech, les livres de Joko que j'ai jamais lus. Comme ça, je me suis dit, je vais les lire. voilà. Donc, c'est découvrir un peu des nouvelles choses. Plus que de l'inspiration, des choses motivantes. Moi, en ce moment, je fais plus là-dessus, de lire des livres qui donnent de l'énergie, de la motivation, plus que de l'inspiration. Après, la frontière est peut-être un peu floue, mais voilà.
Ok, ouais, intéressant. Alors, Joko, hein, si vous suivez pas, effectivement, un petit tour, il faut suivre Mike. Hein, donc, @SideSYDE, vous aurez votre dose de Joko. Qui est un marine, enfin voilà. Suivez Mike, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur Joko et la motivation qui va avec. Pour toi, Régis, est-ce que tu t'es fixé des choses comme ça également ?
Alors moi, tu sais, j'écoute Niptech depuis super longtemps et tu parles chaque année du fameux ton mot de l'année, duquel je suis adepte la première fois où tu en as parlé. J'ai d'ailleurs un petit peu essaimé autour de moi. Et cette année, je vais parler de mon mot de l'année, ça va être l'expression de l'année que je vais essayer de mettre en place, c'est créer du lien. Avec tout ce que ça peut impliquer, pas seulement créer du lien, qu'on pense à créer du lien interpersonnel, créer du lien, ça rejoint ce que disait Fabrice, à l'intérieur de soi aussi. Tu sais, tisser du lien entre ces différentes facettes qui sont pas toujours en accord entre elles et d'essayer d'unifier ça. Enfin, créer du lien aussi dans le sens entre les situations et ce qu'on apprend. On parle beaucoup de développement personnel, de lecture inspirante. Et souvent, elles passent aussi vite qu'on les a lues. C'est pour ça qu'on en lit des tonnes, hein. Quand on en a une, elle nous paraît magnifique. Mmh. C'est génial, ça va transformer ta vie. Et puis, deux semaines après, t'en lis un autre. Et du coup, créer du lien, voilà, entre ces lectures et les vraies situations qu'on vit, souvent, c'est pas le cas. Moi, je sais que je lis des bouquins super inspirants. Je me dis, oh, c'était ça que j'aurais dû lire au moment où j'étais mal dans l'année et faire ce lien avec ces lectures au moment où tu les vis. Voilà, je vais essayer de m'appliquer à ça cette année, en tout cas.
Et c'est vrai que moi sur le mot d'année, mais en fait on venait à peu près sur les mêmes mots. Mike, c'était connect. Et en fait, quand Mike expliquait connect, c'est vrai que ça donne un sens d'abord tech au départ. Et moi, le mot qui me venait justement, c'est lien, c'est link, c'est lié en fait. Et moi, mon mot, c'est relié dans le sens. C'est exactement ce que tu dis, Régis. Créer du lien dans le sens relié des choses qui sont pas forcément, enfin qui peuvent être très différentes de premier abord, mais ce qu'on a fait un peu aujourd'hui finalement, parce qu'on partait de sujets différents, mais on dit tiens, il y a un mot quand même, c'est l'autonomie qu'on retrouve un peu partout, et puis finalement qu'on soit dans l'éducation avec ce dont tu as parlé Régis, etc., c'est relié, c'est trouvé, et dans relié, il y a une question de sens
dans les deux sens,
qui est important. C'est vrai que moi, mon mot, c'était plus relié pour 2017, avec une notion de sens relié pour donner du sens.
Ouais, c'est exactement ça.
Je pense que c'est vrai. À un moment, j'en ai parlé sur Niptech, c'était joie, mais parce que je pense que voilà, quand on lutte des fois, hein, happiness is the way, on l'oublie, donc il faut revenir, ça vraiment un grand fondamental. Mais après, c'est intéressant de voir là comment j'essaye de le mettre en place maintenant, c'est-à-dire que je me réserve des moments. Parce que quand on est tout le temps dans les projets, dans la motivation, ça c'est un truc dont j'ai pas manqué ces dernières années, vraiment arriver à faire de l'espace pour, disons, profiter et se rappeler qu'on aime, et puis voilà, c'est compliqué. Donc typiquement, je fais un truc qui pour moi est un énorme challenge. Je sais que pour d'autres, c'est pas un challenge, mais là, cette première semaine de janvier, puis je vais essayer de continuer tant que j'ai pas trop de rendez-vous, je me fais par exemple des power naps. Alors, c'est le truc psychologique que j'utilise pour dire que simplement je fais des siestes d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure à une heure. Parce que comme je mange, c'est Joylent et tout ça, mes temps de midi sont courts. Mais c'est un gros, pour moi, c'est quelque chose voilà, qui me permet de faire des breaks dans la journée, d'être moins fatigué, d'être plus disponible, de mieux profiter. Mais c'est un énorme travail psychologique à la base pour me dire, tu as le droit de faire une pause. Voilà, donc je trouve ça intéressant de comment on aménage finalement le mot. C'est pour ça que j'aime autant ce concept, effectivement. Quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes fan ? Est-ce que vous avez déjà essayé les power naps ?
Non, mais...
La bonne vieille sieste.
C'est ça. Bah oui, ça, je pense que ça fait rêver tout le monde quand tu dis que tu fais un effort mental pour avoir le droit de faire une sieste.
Mais vous avez pas ça de dire, parce que typiquement, je pense que l'année passée, j'aurais pas pu, je n'étais pas prêt psychologiquement à me dire, voilà, tu peux dans la journée déconnecter une demi-heure. Donc, vous avez déjà testé vous-même ou
Ah ouais, là. Vas-y, Fabrice.
Enfin, bah, en tout cas, c'est des choses que je m'interdis pas du tout. Même au bureau, je ferme la porte, puis je, voilà, je dis, mais tiens, un quart d'heure, hop, je m'endors un quart d'heure, puis je me réveille. Bon, sans parler des week-ends, évidemment. Ouais, oui, non, c'est des choses. Alors après, c'est pas, par contre, je l'ai jamais systématisé comme une pratique, plus ouais. comme une des choses que je m'autorise sans que ça me pose aucun problème. Maintenant, c'est vrai que de ce que je comprends, en tout cas, Ben, c'est plus sous la forme d'une pratique un peu plus régulière, en fait. C'est comme ça que tu le fais.
Ouais, au début, en tout cas, pour pour franchir le pas, pour. Oui. Pour apprivoiser le concept, on va dire. Toi, Régis, t'avais l'air super à l'aise aussi avec,
ce concept. On va dire que je suis aussi un adepte des siestes pendant les vacances. C'est que je peux faire des siestes tous les trois jours, quoi, des petites siestes. Mais c'est vrai que présenter et dire je vais me faire une petite power nap, ça claque beaucoup mieux. Donc, je vais changer de mot.
C'est pas mal.
Ah ouais, c'est géant. Power nap.
Clair. Oh ouais. Et malheur à celui qui dit qu'on fait la sieste. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est pas du tout ça.
Non, on dort pas. On fait. Déjà, le mot power, c'est super de mettre le mot power dans leur sieste. C'est génial. C'est vrai que c'est pour ça, mais sieste ça fait feignant alors que power ça fait pas feignant.
après c'est toujours le truc, c'est dès que tu fais un truc, si tu veux chercher n'importe quel concept simple, tu vas aux États-Unis, puis tu as trouvé les extrémistes, donc tu as ceux qui calculent, tu sais, ils vont faire prendre un café, mais tu sais que le café fait 25 minutes pour agir ou 30 minutes avant d'entrer, donc tu fais ton power nap en même temps,
juste
comme
avant.
Ça tu as le kick du café et le bienfait de la, donc ça, toi là, ça, je pense que ça c'est un petit peu aller à l'encontre de l'idée justement de laisser un petit peu plus relax. Enfin, sachez que ça existe pour ceux d'entre vous qui sont plus motivés pour trouver vraiment des bons gros coups de boost. Il y a toutes sortes de choses à ce niveau-là.
Bon, blague à part, je crois que c'est quand même prouvé que les petites siestes courtes, elles ont un effet puissant sur le mental, sur le moral et sur la forme, quoi.
C'est dur de trouver des articles. J'essaye toujours, quand je fais ce genre de recherche, trouver les deux côtés, quoi. Le côté néfaste et le côté, mais ça, c'est un truc, ça a l'air d'être tellement naturel que... Mais après, ce qui est intéressant, c'est les temps. Si tu as envie d'améliorer ton énergie, les power nap, les 20 minutes, là, c'est très bien. Si tu as vraiment envie d'améliorer tes performances cognitives, c'est-à-dire que tu dois vraiment apprendre beaucoup, beaucoup de choses, c'est pas assez, il faut viser une heure. Puis la zone affreuse, semblerait-il, c'est 30 à 60 minutes où là, quand tu te réveilles, tu es juste mal.
C'est pire,
Donc ça, il faut éviter, il faut faire un cycle complet si tu dépasses les 30 minutes. Par contre, si tu fais un cycle complet et que tu dois apprendre, là, tu peux vraiment booster tes capacités d'apprentissage.
Je dis ça à mes élèves.
Ça me fait penser sur 2016, il y a un sujet aussi sur lequel auquel je me suis intéressé pour la première fois et où j'ai trouvé énormément de liens avec la méditation, avec tout ce dont on parle là, c'est l'hypnose. C'est comprendre comment ça marche l'hypnose, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fonctionne réellement, comment, pourquoi, etc. Et là, je suis intéressé d'assez près en fait en 2016 et j'ai trouvé vraiment super intéressant parce que en tout cas moi ça m'a éclairé sur beaucoup beaucoup de choses sur pourquoi, notamment sur la méditation, sur beaucoup de choses où en fait c'est des livres qui parlent d'hypnose, d'autres de méditation, 90% ou 80% c'est exactement la même chose, dit avec des mots différents et aussi surtout avec des courants culturels différents. Mais finalement, par contre, ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau de tout ça, c'est ça semble être exactement pareil et ça en retournant dans tous les sens. Et on parlait des siestes et de l'effet que ça peut avoir sur la vigilance, la capacité d'apprentissage, etc., etc. C'est ça qui m'y a fait penser.
Je pense que nous, si vous avez peut-être suivi Solar Impulse, cet avion solaire qui a fait. Alors, il a mis 2 ans pour faire le tour du monde, mais bref, il est arrivé à faire le tour du monde. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que les deux pilotes géraient ces. Ils ont fait 72 ou 96 heures en l'air. Et un faisait du yoga, méditation, et l'autre faisait de l'auto-hypnose. Donc, voilà. Et c'était, comme tu dis, les deux arrivent au même endroit. C'est-à-dire que tu arrives à vivre dans un espace confiné, hostile, tout ce que tu veux, pendant des super longues périodes. Je pense que nous, on aurait pris le parachute déjà depuis un bon moment, quand eux étaient encore en l'air. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors peut-être, je crois qu'ils ont écrit des bouquins là-dessus. Tiens, peut-être que je vais m'en lire là cette année.
Ah ben voilà. Et probablement les deux faisaient à peu près la même chose, mais avec encore une fois des représentations mentales personnelles très différentes.
Ouais. Absolument. Oui, c'est absolument ça. Mm. Bon, on arrive tout doucement au terme de ce Nipcast crossover, Nipcast Family Show. Bon, c'est pas vraiment comment on va l'appeler, mais voilà. C'était vraiment un grand, grand plaisir. Je crois qu'on a, en tout cas, moi, j'ai exploré de façon complètement différente les thèmes de la tech et de l'inspiration qu'on fait habituellement. Donc, je vous remercie d'avoir partagé ce moment. On espère voilà, que ça vous a plu aussi, à vous qui nous faites le plaisir de nous écouter. Et puis, si vous avez des idées, des commentaires, alors où est-ce qu'on peut vous trouver chacun d'entre nous? Profitez aussi de redire le nom de votre émission, comme ça on est certain de pouvoir vous suivre au cas où. Régis, pour toi?
Nous, c'est Nipédu, surtout sur Twitter, @Nipédu, et j'en profite pour faire un méga coucou à mes camarades, à mon alter ego Fabien et à Nico et François. Donc, c'est là que vous nous retrouvez. Et on est tous les mois pour une tranche de... C'est bien que tu l'as présenté, une tranche de rigolade, mais de la rigolade avec du sérieux derrière autour de l'école, l'éducation et le numérique.
Ouais, excellent. Et pour toi, Fabrice?
Alors, pour moi, c'est NipDev. Alors, 2016, ça peut être une année très faste en termes de nombre d'émissions pour NipDev. J'ai peur de dire, enfin, je crains de dire que 2017 sera meilleur, même si on s'est donné pour objectif avec Antoine d'être plus régulier et en faire une par mois, ça serait vraiment parfait. Bon, c'est objectif, on va essayer de s'y tenir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une demande des auditeurs, donc ça c'est très bien. Donc, c'est soit sur @NipDev ou @FXZO sur Twitter. Le plus simple, c'est Twitter, l'un des deux.
Ouais, on est tous encore old school, hein, pour moi, @BKurdy, effectivement sur Twitter aussi, donc voilà, NipTech pour les émissions. On ne sait pas où on va le poster, mais en tout cas, je vais le poster sur NipTech, on va le poster sur Nipcast, enfin, chacun peut le poster là où il veut, cette émission. C'est la beauté comme ça du flou artistique autour de ce type de format. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, si vous avez envie de faire un podcast, allez, c'est le début de l'année, il faut réaliser ce qu'on veut, n'hésitez pas à nous contacter. Et on vous souhaite, pas l'année prochaine, on espère vous retrouver avant sur d'autres podcasts, mais en tout cas, une très belle journée, une très bonne soirée selon. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Alors, on arrête l'enregistrement. We'll be right back.